si bien.
A batida de violão, gente dançando no calçadão. O balanço do samba, o samba é tão bom.
Vous l'avez reconnue, non, cette voix?
Et maintenant, c'est éclectique.
Jeanne Moreau, donc, qui est à l'affiche de Une Estonienne à Paris, premier et beau film qui sort en salle la semaine prochaine. Un film sur le désir, sur le temps qui passe dessus et sur ce qu'on est prêt à faire pour continuer à le vivre, à l'éprouver. Jeanne Moreau y incarne une femme qui, parmi ses amants, en a connu un bien plus jeune qu'elle. Il a compté beaucoup et elle ne veut pas y renoncer. Jeanne Moreau n'est pas ses personnages, mais ses films, c'est sa vie. Toutes ces femmes qu'elle a incarnées, ses rencontres, ses amours, ses amitiés, tout ça, ça fait une œuvre, la sienne, et la conversation de ce matin est l'occasion de la revisiter. Je suis arrivée dans un appartement rempli de livres, avec des cigarettes disposées dans des pots, comme des bouquets. Elle avait fait un feu, et en sortant le micro, je me disais, le feu de cheminée, pendant que peut-être vous déjeunez, enfin où que vous soyez, C'est pas mal pour un dimanche matin.
Alors, ça c'est le dégage. Hein.
Merci. Et ça c'est des petits marrons que je fais venir de Corse. Pas de vanille, vous voyez, ils ont pas ce goût pourri, écœurant. Puis je vous ai mis du vrai gingembre.
Vous êtes gourmande, vous ?
Non, mais du gingembre, oui. Enfin, oui, je suis gourmande.
Ça va ?
Ça va mieux, oui. Eh oui. Non, parce que vous êtes gentil de vous déranger, mais j'ai tellement attrapé la crève. Ça vous gêne pas si je fume ?
Ah ben non. Je vais vous accompagner, en fait.
Oh ben, comment ? Vous l'avez vu, le film ?
Cette question, pour sûr que je l'avais vu, le film. Et je me permets même de vous le recommander. C'est donc Une Estonienne à Paris, le réalisateur Ilmar Raag, l'histoire d'une femme, Anne, qui décide de quitter son pays, l'Estonie, parce que plus grand-chose ne l'y retient. Elle saisit l'occasion d'aller vivre à Paris et se retrouve au service d'une vieille dame qui s'appelle Frida. Frida, c'est Jeanne Moreau. Et Frida n'arrive pas à se défaire d'un jeune amant, interprété par Patrick Pineau. C'est le désir pour cet homme qui maintient Frida en vie. Le duo va donc être bousculé par l'arrivée d'Anne, aide à domicile. Anne est interprétée par Lena Meggy.
Anne est formidable, la fille. Je la trouve merveilleuse. Elle est arrivée, elle parlait très peu français, très peu anglais. Et le metteur en scène était très, très intimidé en demandant comment ça allait se passer. Il est venu avec elle et m'a dit « je reviens dans une heure ». Et il s'est dit que ça va être terrible. Il est revenu, on était là, on se parlait un espèce de langage à nous. On était dans les bras l'une de l'autre, on s'est entendus, on riait. Elle m'a raconté toutes son petit... Surtout qu'elle a eu un très gros chagrin avant de venir. Avant qu'elle commence le tournage. J'ai tout compris, tout ça. Et quand j'ai vu le film, elle m'a... Parce que c'est rare de faire un film où on voit une femme qui déambule dans Paris pour la première fois. C'était un peu à cause d'ascenseur pour l'échafaud. Et son regard, on voyait que c'était une étrangère. D'abord, son attirance pour les fringues, les belles boutiques, et le regard qu'elle avait sur la Tour Eiffel, sur les Champs-Élysées, sur l'Arc de Triomphe. Enfin, je trouve que c'est une comédienne formidable. Et puis, Pineau est formidable dans le rôle de l'ancien amant. C'était pas facile. Pas facile.
Qu'est-ce qui n'était pas facile ?
Pour lui.
Pour lui et pour vous.
Oh non, pour moi, non.
Il y a une très belle scène où vous êtes couché avec lui.
Ah, où je le caresse pour lui dire adieu à son corps. C'est moi qui ai eu l'idée de cette scène.
Racontez-moi.
Mais ça devait se passer autrement. Elle devait avoir une crise de sanglots et tout ça. Et puis j'en ai parlé à Imar et puis j'ai dit, écoute, on va faire quelque chose si tu permets, tu vas voir. Et j'ai fait accoucher sur le lit et pour avoir la mémoire de la sexualité, de la sensualité qui nous a unis.
Alors vous glissez votre main sous sa chemise.
Oui, puis sur son sexe.
Et il vous dit, qu'est-ce que tu fais ?
Non, lui dit, qu'est-ce que tu fais ?
Ouais.
Je sais plus ce que je dis.
La mémoire.
Ah oui, 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 j'avais oublié. Oui, ça m'est venu comme ça. Oui, parce qu'à un moment donné, on est tellement pris dans le personnage qu'il y a des mots qui vous échappent. Tout peut arriver. Parce qu'un film, ça coûte de l'argent. Donc, c'est, vous voyez, c'est structuré. Et à l'intérieur de ça, il faut se mouvoir.
Extrait d'Une Estonienne à Paris, Jeanne Moreau, Patrick Pineau, dans le rôle de son ancien amant, et Lena Meggy, qui interprète son aide à domicile.
Je peux être vos mains et vos jambes. Je suis ici pour ça.
Bah, tu peux garder tes jambes et tes bras. Tu regardes ?
Bah, tu pourrais lui parler autrement, non ? Elle va partir, puis elle aura raison.
Eh ben qu'elle parte. Moi, j'ai pas demandé.
Tu sais, si elle part, je vais être obligé de trouver quelqu'un d'autre.
Ouais, ça c'est vrai.
Tu veux que je la remplace, c'est ça que tu veux?
Non, c'est toi que je veux. Et puis je veux la clé de mon armoire à pharmacie.
Non.
Je t'emmerde.
Ah, mais moi aussi je t'emmerde. Alors je vais y aller. Bah tu vois, toi ça va mieux.
Oui.
Hein?
Moi c'est jamais un personnage qui m'attire, c'est l'ensemble. Et puis c'est de satisfaire le désir de quelqu'un.
Là c'était le désir d'Ilmar Raag, réalisateur d'Une Estonienne à Paris.
Il avait le désir de le faire et qu'il m'ait choisi, je me suis sentie honorée.
Il vous a choisi en tant qu'étrangère à Paris, puisque vous interprétez une Estonienne.
Oui, mais il savait que je pouvais le faire. Intuitivement, il savait que j'y arriverais.
Parce que vous, vous êtes à moitié anglaise.
Oui, mais la question n'est pas là. Il faut, vous savez, à un moment donné, hein, au début, quand on est comédienne, les références les plus intimes sont normales. On s'appuie sur soi. Mais maintenant, moi, je suis à la découverte. Je connais un univers. Je connais des natures les plus multiples, des femmes que je ne serai jamais, que je n'aurais jamais vécu leur vie, je n'aurais jamais été elles. Que ce soit Eva de Lozay, que ce soit Mademoiselle, les personnages d'Orson, la chanteuse de Fassbinder, la joueuse de comment il s'appelle, de Jacques Demy. J'ai découvert des mondes, hein, des mondes.
Vous, dans votre filmographie, vous n'avez que très très rarement interprété des mères de petits enfants.
Oui, je suis pas douée pour ça. Je sais pas. On n'a jamais pensé à ça. Vous savez, la grande époque, ma grande époque était la grande époque du cinéma où les hommes rêvaient des femmes et les femmes étaient les héroïnes. Et ils n'avaient pas envie de la voir avec des marmots.
Pourquoi vous vous dites que vous n'êtes pas douée pour ça?
Parce que je ne suis pas maternelle. Je le sais, il faut le reconnaître, je ne le suis pas. Et j'adore les enfants des autres.
Qu'est-ce qu'il y a?
Je veux dormir seule cette nuit, va dans ta chambre.
Mais pourquoi?
C'est comme ça.
Jules et Jim, de François Truffaut.
Explique-toi.
Il n'y a rien à expliquer.
Je resterai à côté de toi, comme ça, sagement.
Ce n'est pas vrai. Et puis je n'ai rien à faire de ta sagesse. Je suis dégoûtée. C'est un cauchemar quand le soir arrive. Je pense à cet enfant que nous n'aurons jamais. J'ai l'impression de passer un examen. Je ne peux plus le supporter.
Mais on s'aime, Catherine. Il n'y a que ça qui compte.
Non. Parce que je compte aussi. Et moi, je t'aime moins. Alors essayons honnêtement de nous passer l'un de l'autre. Si nous rompons et que je m'aperçois après que je t'aime, c'est mon risque. Allez, va rejoindre Gilberte, puisqu'elle t'écrit tous les jours.
Tu es injuste, Catherine.
Sans doute. Mais je n'ai pas de cœur. C'est pourquoi je ne t'aime pas, et que je n'aimerai jamais personne. Et puis j'ai 32 ans, et toi 29. À 40 ans, tu voudras une femme. J'en aurai 43, tu en prendras une de 25. Et moi, je me retrouverai toute seule, comme une idiote.
Tu as peut-être raison, Catherine. Je vais partir demain. Séparons-nous pour 3 mois.
Tu souffres? Eh bien, moi, je ne souffre plus. Parce qu'il ne faut pas souffrir tous les deux à la fois. Quand tu cesseras, moi, je m'y mettrai.
J'ai toujours été proche des metteurs en scène. J'ai toujours été très, très obéissante, jamais. Même avec les mauvais, j'ai appris beaucoup.
Ah oui?
Mais oui, quand j'ai tourné avec André Berthomieux, la petite marchande de cigarettes, où je chantais, car nous avons aimé cette boîte, la pivoine écarlate, parce que la joie éclate et que nos rates se dilatent. J'arrive sur le plateau et je lui dis, qu'est-ce que je fais? Ah, il me dit, tu vas pas m'emmerder, hein. T'es de la comédie française, alors tu fais ce que tu veux. Ça m'avait plu, ça. J'ai dit, mais il est pas incroyable, ce type.
Si tu ne fais rien comme les autres, si tu as la tête d'un chat, arrête un peu au lieu de rester là. Viens donc nous faire une bise à la marquise. En dessous, on se déguise, on dit des bêtises. Nous serons
éclectique, Rebecca Manzoni.
Bon, je sucre mon café.
Je vais vous le mettre.
Jeanne Moreau.
Jusqu'à 11h.
Prenez votre café tranquille.
Sur France Inter.
J'aimerais revenir sur le fait que Lena Meggy ne parle pas du tout français. Du coup, la communication se faisait comment? Parce que, d'après ce que vous dites, c'était pas un obstacle. Dans les rencontres que vous avez faites et qui ont...
Mais vous le savez aussi bien que moi qu'on n'est pas obligé de parler la même langue. Quand on vit dans une intimité. J'ai tourné avec des gens qui parlaient pas un mot de français. Et même l'équipe. Mais bien sûr.
Avec Bergman aussi.
Oh non, mais Bergman, on n'a pas tourné ensemble.
Oui, mais vous communiquiez.
Ah, on communiquait très bien, mais parce que moi, je faisais traduire ses lettres, il faisait traduire les miennes.
Et quand vous voyez, il n'y avait pas de traducteur?
Non, on n'avait pas besoin. Le pauvre, chaque fois qu'il venait, il avait un furoncle. À cause de ça, on n'a jamais pu faire l'amour. On se retrouvait chez l'ambassadeur de Suède où il avait un appartement. Puis on n'a jamais fait de film ensemble. Tu chéris.
Comment vous vous êtes mise à lui écrire à Bergman?
Je lui ai écrit parce que c'était après la rupture avec... que je prévoyais, avec Louis.
Louis Mal.
Oui, qui était vraiment une grande déchirure. Et on faisait une croisière ensemble. Sur le bateau d'une amie du prince Murat. Et c'est terrible quand on est à la fin d'une relation sur un bateau. Et il fallait que j'écrive à quelqu'un. Mais j'ai dit à qui je pourrais écrire? Mais j'ai dit l'homme qui connaît le mieux le cœur des femmes. C'est Bergman. Alors j'écrivais, chaque fois qu'il y avait une escale, j'envoyais une lettre. Et quand je suis revenue... J'ai trouvé une pile de lettres en suédois. Et donc, comme je ne voulais pas que ça s'ébruite, je me suis adressée à l'ambassade de Suède, qui les a fait traduire. J'ai dit, vous ne dites pas à qui elles sont adressées, ni qui. Moi. Et j'ai eu toutes les lettres traduites. Mais enfin, c'était marrant. Hein. Oui, c'était le seul homme auquel j'avais envie d'écrire.
Et quand vous dites cette rupture avec Louis Malle, ça a été une déchirure
oui.
Et que vous l'anticipiez, vous saviez que ça allait arriver?
Oui, pendant le tournage des Amants, je savais. Le fait qu'il ait tourné cette scène du lit, qui n'était pas prévue, je savais que l'impudeur à laquelle il me forçait, ce dont je faisais cadeau.
Je t'ai toujours connue.
Je savais que c'était...
Je n'ai connu que toi.
C'était un cadeau d'adieu que je lui faisais.
Qu'est-ce que t'as écrit?
Devine. Oh, je suis si heureuse. Si heureuse. J'aurais pu passer toute ma vie. Nous dormirons toujours ensemble. Je m'occuperai de toi. Ma vie pour la tienne.
Mais Margot avait...
Margot, c'est Marguerite Duras.
Parce qu'on a traîné la nuit beaucoup ensemble quand Louis m'a quitté, parce que j'espérais toujours l'apercevoir dans une boîte et tout ça. Et elle parlait de la fuite devant l'amour. Parce qu'on peut être très souvent amoureux, mais ne pas savoir ce que c'est que l'amour. Vous comprenez?
Et après cette rupture, vous avez quand même continué à faire du cinéma.
Ah ben bien sûr, ça n'avait rien à voir. Pour un chagrin d'amour, j'allais pas arrêter d'être comédienne quand même. J'ai reçu ce don, je suis responsable. J'y suis pour rien, c'est comme ça.
C'est un destin.
Ah oui, 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 c'est sûr. Bon, d'abord, je voulais être danseuse comme maman. Mais danseuse classique, maman était danseuse aux Folies Bergères. Et puis, mon oncle, tant qu'il était vivant, m'a payé des cours. Après, il n'y en a plus, puisqu'il n'y avait plus d'argent dans la maison. Et j'ai poursuivi mes études, j'adhérais à aller à l'école. Je travaillais très bien, j'avais des très bonnes notes. Et puis, mes copines étaient beaucoup plus libres que moi. Moi, j'avais pas le droit d'aller au cinéma, au théâtre, j'étais obligée de mentir un peu. Et j'ai dit que je prenais des cours de russe, qui était absolument faux. Et c'était la guerre, et nous sommes, elles allaient voir l'Antigone d'Anouilh, avec Monelle Valentin, la femme d'Anouilh. Et cette petite qui disait non, non, et ben c'était moi, non. Donc j'ai eu l'aide de ma mère, qui me soutenait, mais j'ai eu aussi l'aide de mon père, qui ne voulait pas, ce qui était un atout formidable.
Pourquoi ?
Parce qu'il disait non à ce que je voulais. Donc moi, ça m'a donné de la force. J'ai dû lutter. Et c'est là que j'ai commencé à mener une vie clandestine. J'étudiais avec un prof. Mon père ne le savait pas et il savait... Voilà.
Et à partir de là, il vous a laissé faire ?
Mais il ne savait pas.
Mais quand il a bien fallu qu'il le sache.
Ah ben, quand il l'a su, il m'a foutu à la porte. Et mon père, une fois, est venu me voir au théâtre et c'était la pièce avec Suzanne Flon. Elle me dit, il y a un mec au deuxième rang, il ronfle. Quand le rideau est tombé, j'ai regardé, c'était mon père. Quand je suis entré en scène, il a entendu ma voix, il s'est réveillé, il a dit, c'est ma fille. Puis quand il a vu que j'étais une pute et que je couchais avec un vieux, il est parti. Il a dérangé tout le monde, il est parti.
Et vous étiez d'autant plus déterminée ?
Ben bien sûr. Puisque je voulais être mise à l'épreuve, quand j'ai demandé conseil à un monsieur qui habitait l'immeuble en face, et ma mère, en secouant les couvertures, parlait à sa femme, c'était un acteur qui travaillait à l'Odéon. Il m'a fait un peu travailler les lettres de mon moulin. Mais je lui ai dit, il me faut un prof sévère. Il me dit, il y en a un. C'est Denis Dinès, le doyen de la Comédie française. Je lui ai dit, vous comprenez, je sais que je dois le faire, mais je veux quelqu'un de sévère.
Pourquoi vous vouliez quelqu'un de sévère ?
Mais parce que je ne voulais pas de facilité. Je ne voulais pas quelqu'un... Je voulais être sûr que je devais être ça. Vous voyez, quelque chose qui conforte cette détermination, cette destinée que je sentais. Et en effet, j'ai passé... Il y avait une salle ici, à la salle Pleyel. Je suis venue, recommandée par ce monsieur de l'Odéon. Et à la fin du cours, il a dit, ben, il y a une petite là qui veut passer une scène. Alors je lui ai passé Hermione, naturellement, la tragédie toujours. Et puis à la fin, je suis restée seule avec lui. Il m'a dit, écoute maintenant, voilà. Je sais que t'as pas d'argent, je te fais travailler, d'accord ? Parce qu'il y a quelque chose, tu parles trop vite d'abord. Tu vas trop vite. Et deuxièmement, tu vas me travailler du Marivaux. J'étais effondrée. Oh ! Une soubrette de Marivaux. J'ai dit, je vais le faire, je l'ai fait.
Pourquoi vous étiez effondrée par Marivaux ?
Parce que moi, je me voyais dans les tragédies les plus sombres et... dans les folies d'amour les plus cruelles et les plus dévastatrices. Puis j'ai vécu la guerre, hein, puis je voyais bien les rapports de mes parents, les adultes, vraiment. Ma mère qui adorait mon père qui avait des aventures les unes après les autres, puis la guerre, tout ça, non, c'était pas la gaieté.
Vous savez ce que c'est que l'amour, vous ?
Maintenant, oui. C'est généreux, c'est pas possessif. Vous savez, on parle beaucoup d'amour, faire l'amour. Je suis amoureux, être amoureux et aimer, c'est pas pareil. L'amour, c'est le désintéressement. Même envers un autre être humain.
Le film Une Estonienne à Paris, c'est aussi ça.
Oui, c'est vrai, j'y avais pas pensé. C'est ne plus être jaloux, par exemple, en amour. Ben, il faut du temps pour y arriver à ça. D'où le privilège de l'âge.
Vous avez été jalouse ?
Ben, bien sûr que j'ai été jalouse. Bien sûr que j'ai été jalouse. Pensez donc. Mais c'est vrai que l'âge, c'est très intéressant. C'est chiant au point de vue physiologique. Pas l'apparence, moi je m'en fous de ça. Mais le corps se meut moins bien, on a des douleurs, des trucs machin. On est plus sensible au froid, au chaud. Mais autrement, c'est magnifique.
Aïe, c'est fou. Parce que ça m'énerve quand tu rajustes, sadique, au soleil, tes jartelles, roses. Devant mes copains, tu le sais bien, tu plais follement aux autres. Des yeux qui brillent, leur donnent des folles envies de t'écraser, de t'étouffer, de te piler d'amour, de t'émietter, de te croquer tout comme un petit four, et de plier d'une main de fer ton petit corps de velours. Aïe, c'est fou, tu m'exaspères quand tu ondules, sadique, sur tes mules en signe rose. Devant mes copains, tu le sais bien, tu plais follement aux autres. Moi tu me rends dingue avec tes agaceries. Il faut que je me retienne à deux mains pour pas t'ôter la vie, pour pas te casser comme un joujou plié sur mon genou. Oui, tu m'énerves à la folie, ah, tu es trop jolie. Aïe, c'est fou, parce que ça m'agace, j'ai mal aux dents, sadique, quand tu limes tes ongles roses. Devant mes copains, tu le sais bien, tu plais follement aux autres. Moi tu m'énerves avec tes chatteries. Ça me donne envie de t'esquicher, de te moudre d'amour, de te couper en petites rondelles comme un petit rôti. Et c'est comme ça qu'un de ces jours, je te ferai passer au four.
Lorsqu'elle reçut un César d'honneur en 2008, Jeanne Moreau l'a offert à une jeune réalisatrice qui venait de réaliser son premier film. Elle s'appelle Céline Sciamma. Ce dimanche, j'avais envie de faire écouter à Jeanne Moreau la voix d'une autre Céline, comédienne cette fois. Elle s'appelle Céline Salette, que vous avez peut-être vue dans Les Revenants, série récemment diffusée sur Canal+, dans De Rouillé d'Os, de Jacques Audiard, dans L'École du Pouvoir, une série de Raoul Peck. J'espère avoir l'honneur de vous la faire entendre plus longuement, un de ces quatre d'ailleurs. La voici, Céline Salette, dans Éclectique et dans L'Oreille de Jeanne Moreau.
Ce que j'adore dans le métier d'acteur, c'est qu'on n'est pas fini. C'est que... j'aime bien cette idée, c'est un peu bête, mais... on embrasse l'humanité, en fait. On est tout le monde. On n'est rien et on est tout le monde. Donc il faut sauter dans le vide. Mais le problème, c'est que si on ne sait pas qu'on a le droit d'être à chier, par exemple, qu'on a le droit de que le sublime est très proche du ridicule, que c'est pas grave de rater, ça, par exemple, ça s'apprend. Et moi, au conservatoire, j'ai pris des claques. Comme ça, des fois, on se retrouve à pleurer dans les toilettes et on comprend que bon, ben, ça n'a pas de rapport avec soi, son ego. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est-à-dire que jouer, c'est autre chose, en fait. On raconte une histoire, donc des fois, c'est pas juste, en fait. C'est pas le bon endroit où vraiment, alors là, on n'y était pas du tout, carrément pas. Et on recommence. Ce qui s'apprend, c'est qu'on. Ça se cherche, en fait. L'instant se cherche, l'instant présent se cherche, la grâce se cherche, ça s'invente, ça doit s'inventer. C'est pas grave.
Formidable. Formidable. Et moi, je dis toujours, j'espère qu'elle restera, parce que ce qu'il y a de plus dangereux, c'est le succès quand ça vient, quand vous devenez une star. Il y en a qui oublient ça. Et c'est une intégrité qu'elle... Et quand je vois quelqu'un et que j'entends quelqu'un comme ça, je me dis, pourvu que les petits cochons ne la mangent pas. Moi, par exemple, après le succès des Amants, je me suis dit que je voyais mon nom. J'allais au théâtre jouer une pièce avec Marie-Belle, au gymnase. Je voyais mon nom illuminé, tout ça. Mais qu'est-ce que je vais faire après ? Je vais fuir.
Y a-t-il des personnages ou des rôles où vous vous êtes dit Même après avoir commencé, non, ça, je peux pas. Je vais pas aller au bout.
Non, non. Non, non, j'ai jamais senti l'impuissance.
Ah ouais?
Oh non. Oh non, au contraire. Non, non, je peux pas. Si ça bute, c'est qu'il y a quelque chose que j'ai fait. Pour ça que je travaille beaucoup, beaucoup avant. Beaucoup, beaucoup.
Vous travaillez comment?
Ben, je rêve. Mais vous savez, c'est nourri des livres que je lis, de la vie que je mène aussi. C'est pas seulement que le cinéma.
Comment ça, des livres que vous lisez?
Ben, je lis beaucoup. La lecture, ça a été ma première passion. Ma première passion interdite. C'était défendu de lire. Pour mon père, c'était une femme n'avait pas besoin de lire.
Alors vous vous y preniez comment?
Ben en douce. Comme j'achetais des bougies bon marché, j'avais les narines toutes noires, vous savez. Puis ça sentait mauvais.
Donc lire, c'était un peu la liberté.
Ah ben, c'est comme ça que j'ai découvert le monde. Parce qu'on vous expliquait pas comment on faisait les enfants, rien du tout. J'ai découvert la vie, la sensualité.
Et écrire?
Écrire, j'y arrive pas. J'y arrive pas. Mais peut-être avant que je parte, j'y arriverai. Au revoir.
Vous savez ce qui vous empêche?
Trop d'admiration pour l'écriture, pour les auteurs. Vous savez, c'est solitaire. Moi, j'ai l'habitude du travail collectif. Mon seul moment solitaire, c'est la lecture.
Et donc, de se retrouver face à une feuille blanche, ça vous intimide?
Oh oui, 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 j'ai écrit déjà, là, j'ai au moins 600 pages. J'arrive, j'ai 16 ans, alors c'est vous dire comment j'écris. Non, non. Non, non, mais peut-être que j'y arriverai. Si je dois le faire, je le ferai. J'ai confiance dans mon destin. Si je dois écrire quelque chose, si ça peut être utile à quelqu'un. Si c'est pour écrire, c'est pas pour le plaisir.
Je vous en prends une?
Oh bah oui. Je vais vous parler d'un auteur en attendant, ouais, qui est complètement méconnu et qui est un homme génial, que je finirai par rencontrer un jour. Ça, chaque fois qu'il publie un livre, c'est Frédéric Pajac. Vous avez le temps de lire?
Oui.
Vous voulez que je vous en donne un?
Avec grand plaisir.
Oui, c'est formidable.
Merci.
C'est drôle, touchant, formidable. On sent que pour lui, faire ses livres, c'est une question de vie ou de mort, mais ça l'aide à vivre, c'est sa nourriture, c'est son... Non, non, c'est un parcours magnifique.
Vous avez ce rapport-là à votre métier?
Il faut que c'est l'absolu, il faut que ce soit beau. Vous savez, moi j'ai le trac. Il y a deux tracs, il y a le trac de déplaire, et il y a le trac de ne pas être à la hauteur. Moi j'ai celui de d'être pas à la hauteur.
Déplaire, vous vous en foutez?
Oh, je m'en fous. J'ai fait des films qui ont déplu, qui ont gêné.
Eva, je pense à ça.
Oui, Eva, Mademoiselle aussi. Maintenant, on le découvre, on dit que c'est une merveille.
Et vous parliez du trac de ne pas être à la hauteur.
Oui, de ne pas progresser, de ne pas avancer.
Alors, par exemple, quand vous avez interprété le récit de la servante Zerline...
Ah ben oui, ben ça en plus avec Klaus Michael,
Gruber,
l'exigence. Une fois, j'ai joué 3 ans dans le monde entier. Je jouais à là où il y a des arènes à Nîmes. Et je savais même pas qu'il était là, il était en coulisses. Quand je sors, il vient vers moi, il me fait « C'était de la merde ». Il avait raison. Parce que j'avais pris l'habitude de vouloir séduire le public. Et après, quand on a repris au TNP à Lyon, il m'a fait répéter. L'équipe partait, ils étaient outrés, la façon dont ils me traitaient, dont ils me faisaient recommencer. Il m'a fait souffrir. Il voulait casser les plis que j'avais pris. Et il avait raison. Puis moi, j'ai toujours prié avant d'entrer en scène. Je supporte pas qu'on me touche, je me maquille moi-même, je me coiffe moi-même. Oui, je dédie mon spectacle à tous mes morts. Oh, ça sied à vitesse. Il dit, mais qu'est-ce que tu... Parce que je partais du fond. Je descendais trois quarts d'heure avant qu'on commence. Un jour, il vient, il dit, mais qu'est-ce que tu fous là? J'ai écouté, Étienne, je prie. Antoine, je prie. J'ai dit, je suis complètement agnostique, c'est... Et puis je dédie le spectacle à la salle. Je veux leur faire un cadeau.
Et vous, la caméra venant du théâtre, c'est un truc qui vous a tout de suite intéressé?
Tout de suite plus. D'ailleurs, au début, on se foutait de moi. Je me souviens, mon premier film, il y avait un chef opérateur, un type adorable. Il me disait, écoute, on se fout de ta gueule, ma Jeannette. Parce qu'on me faisait jouer même quand j'étais hors champ. Alors j'ai appris. D'ailleurs, ça accrochait pas tout de suite. C'était très moderne la façon dont je jouais. Quand je tournais avec Fernandel, il trouvait que j'en faisais pas assez.
Ah ouais?
Ah ben oui, lui, il en faisait des wagons. Oh, il disait, la petite, elle est en dessous. Hein. Mais alors que Gabin m'a jamais dit ça.
Fernandel, je sais qu'il avait beaucoup de mal à pleurer au cinéma.
Oh ben, il n'y arrivait pas du tout. Il n'y arrivait pas du tout, il fallait lui mettre des gouttes. Et il y avait un gros plan, je m'en souviendrai toujours. J'avais un gros plan où... c'était moi qui étais en gros plan. Et je le prenais par le cou. Et donc, ma tête était par-dessus son épaule. Et je devais pleurer, il sentait que je pleurais vraiment, ça l'agaçait. Alors il a tourné pendant la prise. Et il m'a mise de dos, il s'est mis de face. En fermant les yeux, puis en faisant une grimace, comme s'il pleurait. Alors après, le metteur en scène, paraît-il, l'a pris à part. Il lui dit, mais je vais être obligé de te couper. Laisse-la faire. Je te ferai un autre gros plan.
Et vous aimez diriger les autres, comédiens, puisque vous avez fait des mises en scène, notamment au théâtre. Faire de la direction d'acteur, comme on dit.
Ben, bien sûr. Parce que je suis passé par là. Je crois que le moment où j'ai senti mon intimité avec les acteurs, c'est quand j'ai mis en scène mon premier film Lumière, parce que ça devait être Audrey Hepburn. Elle m'avait donné son accord, et puis elle avait un contrat qui traînait, et elle avait un film en costume, et au moment où on allait tourner, et alors moi j'ai dit au producteur, ben on va repasser, retarder le film, on va l'annuler. Et les producteurs ont dit non, vous n'avez qu'à le faire. Et je me suis aperçu que moi, étant dedans, je n'avais plus besoin de diriger les acteurs. Parce que, comme j'étais le personnage, vous voyez, je les entraînais.
Extrait de Lumière, de Jeanne Moreau.
Aujourd'hui, c'est pas fameux.
Non.
Deux bons, quatre possibles, le reste n'en parle pas. Hein.
Ben oui, mais en ce moment, je dors pas assez.
Vous avez encore 15 jours avant votre départ pour les États-Unis. Vous pourrez vous entraîner.
Oh, j'espère bien partir 3 jours dans le midi.
Pas mal.
Ah, Grégoire, vous étiez là. Vous avez vu?
Vous vous préparez pour le crime passionnel?
Vous voulez essayer, Grégoire?
Au revoir, messieurs. N'oubliez pas, Sarah, vendredi prochain, les essais, je passerai vous prendre.
D'accord. Regardez cette belle arme. Prenez-la dans la main.
C'est un Beretta.
Oh, déjà? Qu'est-ce que c'est embêtant.
Quoi?
Ben, surtout que vous êtes venu me chercher ici. Vous voulez pas me retrouver tout à l'heure à la maison?
Mais oui.
C'est un rendez-vous que j'avais oublié, mais j'en ai pas pour longtemps. Qu'est-ce que vous allez faire pendant ce temps-là?
Je vais flâner.
Bon. Tout à l'heure.
Mais vous avez pas eu envie d'arrêter, parce que...
Jamais. Ben, j'arrêterai quand je serai morte. Là, je vais tourner un film avec Sandrine Vesset qui fait une série de sketchs avec moi. On en a tourné déjà 4, non 3. Michael Lonsdale, Isabelle Huppert, Gérard Depardieu. On en a 2 autres à faire. Avec un lien entre les deux, ça le titre sera Jeanne dans tous ses états. Et c'est une femme dont j'admire beaucoup le travail, vous savez. C'est elle qui a fait Y aura-t-il de la neige en hiver et Martha. Et ben, elle me connaît, mais elle me force à aller dans des lieux où je ne suis pas allée.
Comme quoi, par exemple ?
Je sais pas, par exemple, une femme de mon âge mariée à un homme de son âge, une folle dans un asile. Quand je pense que tous ces gens parlent de la fin du monde, qu'est-ce qu'on s'en fout? Non, mais franchement, il y en a qui paniquent, vous vous rendez compte? Ils ne demandent pas s'il y a des survivants avec qui vont rester. Et les quelques qui resteront, qui vont se détester les uns les autres. Oh, mais quelle idée! C'est inouï, ce truc-là.
Le dernier moment de l'émission, c'est un moment qui s'intitule « La minute de solitude ». Vous aimez ça, vous, la solitude?
Oui, oui.
Et donc, je vous laisse seule avec le micro, et c'est un moment qui vous appartient, pour vous en faites ce que vous voulez.
Venez, venez-moi.
Je vais dans le couloir.
Oui.
Et vous
m'appelez. Ben non, allez dans mon bureau.
Ah d'accord, je vais dans votre bureau. Vous m'appelez quand c'est fini?
Oui, oui.
C'est là votre bureau?
Oui, oui, vous fermez la porte. C'est fou ce que c'est. Étrange et épuisant, en tout cas pour moi, de parler de moi. Et je ne peux pas le faire avec n'importe qui, là, ça va très bien. Et puis chez moi, c'est bien. Il y a le feu qui est presque éteint, il y a la bougie. Et je sais qu'après, il faudrait que je mange quelque chose pour me redonner des forces. Avec les années, je me sens moins allègre pour parler de moi. J'ai surtout envie de parler des autres. Voilà. Ben c'est tout ce que j'ai à dire. Ça y est. Merde.
Pardon ?
J'ai tout renversé, c'est rien. Never feel happy. No, you won't. Until you try. You never feel happy.
song is not a wrong song. This song, this song, this song, this song. But this song is a real song.
Pour la bande originale d'Eclectique ce matin, Jean-Michel Montu, vous avez choisi C2C, Happy, Carmen Maria Vega pour le titre La Marquise, et puis une chanson de Bastiac interprétée par Jeanne Moreau, une chanson qui est issue de l'un des deux coffrets qui fête les 50 ans du premier label indépendant de chansons françaises, à savoir celui de Jacques Canetti. Audrey Ripouille a réalisé cette émission avec Benjamin de la Gâtinais. Ce matin, c'est Lola Constantini qui a préparé ce numéro d'Eclectique, dont vous pouvez tout savoir sur le site de l'émission à l'adresse franceinter.fr.
You can't break me down.